Bonjour, vous allez très vite comprendre pourquoi il m'a été impossible d'attendre le 18 avril, date de parution annoncée du livre publié aux éditions Hervé Chopin intitulé « La merveilleuse histoire de l'Europe » et encore moins le 9 mai, jour de la fête de l'Europe. Cet ouvrage très instructif et fort bien fait présente entre autres l'intérêt de décrire et de situer dans le temps les événements qui ont jusqu'ici ponctué la riche et mouvementée histoire de l'Europe. À la portée de tous, il apporte notamment aux jeunes appelés à détenir ni plus ni moins les rênes de leur avenir, des clés indispensables. Sous la direction de Jean-Louis de Valmigère, qui s'est entouré d'universitaires et spécialistes, mais aussi de jeunes européens et illustrateurs, ce livre permet de prendre goût à cette fabuleuse aventure européenne qui dépasse les 60 dernières années. Car comme le souligne dans la préface Antonio Tajani, président du Parlement européen, 3000 ans ont forgé notre identité commune. En 128 pages, on retrouve l'ensemble des épisodes qui justifient à eux seuls la publication de nombreux et volumineux ouvrages. En répondant à une légitime curiosité, ils contribuent à la compréhension de faits marquants qui ont jusqu'ici jalonné l'histoire de l'Europe. Il ne peut donc que susciter chez le lecteur averti comme béotien l'envie d'en savoir toujours plus, voire d'être acteur de l'eurodestin. Alors que le Brexit à rebondissement agite europhile et europhobe, cet ouvrage fournit entre autres l'occasion de rendre compte que le Royaume-Uni s'est toujours montré peu enclin à une adhésion au concept européen, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire. Une réalité confirmée au cours du XXe siècle par le rejet en bloc des traités de la CECA, de la CEE, de l'Euratom ou encore le refus de contributions financières à la Commission européenne, sans parler de l'euro qui n'a jamais eu droit de cité outre-Manche. Ce livre rappelle d'ailleurs que les Britanniques ont même tenté en 1960 de concurrencer la CEE en formant avec plusieurs pays, Portugal, Suisse, Autriche, Norvège, Danemark et Suède, une association européenne de libre-échange baptisée AEL. D'où une marche en arrière dès 1961, mais davantage attirée par le grand large, à savoir les États-Unis, cette position vaudra à la première candidature britannique pour intégrer la CEE un veto français. C'est d'ailleurs ce qui explique que le couple franco-allemand ait pris les rênes d'une Europe cherchant à se singulariser et à s'épanouir en s'attachant à garantir des droits et assumer des devoirs à connotation challenge dans de nombreux domaines. Pourtant, dans les années 50-60, Winston Churchill, premier ministre britannique qui avait émis l'idée de création d'États-Unis d'Europe, fut l'un des 10 hommes fondateurs de l'Europe. Ce n'est qu'en 1979 que Simone Veil sera la première femme à se distinguer en devenant élue présidente du Parlement européen. Parsemée de crises intermittentes, la construction européenne a toujours accouché de projets et de directive dans la douleur. Si la réussite n'a pas été toujours au rendez-vous, de nombreux succès sont néanmoins à mettre à son crédit. Erasme, grande figure de l'humanisme du XVIe siècle, libre et européen, qui donnera son nom au programme d'échanges universitaires en 1987, ne se déclarait-il pas citoyen du monde ? Des États de l'Europe entre 1700 et 1300, de la naissance des États entre 1300 et 1815, époque à laquelle la réforme de la fiscalité était déjà à l'ordre du jour, il est question, tout comme de l'Europe du progrès, mais aussi du chaos entre 1815 et 1944, de l'Europe qui renaît de ses cendres entre 1945 et 1957 et conduira Albert Camus à déclarer « la paix est le seul combat qui vaille d'être mené ». Puis de 1949 à 2019, que d'événements ! Avec la Constitution européenne, puis le traité de Lisbonne, forcé de reconnaître que si l'histoire de l'Europe a souvent été merveilleuse, la domination de l'économie dans son mode de fonctionnement n'a sans doute pas été suffisant pour déclencher chez les 513 millions de citoyens des pays membres de l'Union européenne une véritable envie de défendre des valeurs étoilées sur fond bleu. D'autant que les politiques se sont trouvées confrontées ces dernières années aux récentes questions liées à l'immigration, au protectionnisme, au populisme, à la mondialisation, perturbateurs de cohésion et d'harmonie. C'est sans doute en invitant la jeunesse européenne à écrire la suite de la merveilleuse histoire de l'Europe, qu'Hervé Moritz, président des Jeunes Européens, confirme le caractère inachevé de l'œuvre à accomplir et souligne le rôle majeur que doit jouer une génération engagée, capable de refonder l'Europe. Comment aimer l'Europe sans connaître son histoire? Comment la juger sans la comprendre? La merveilleuse histoire de l'Europe, un bel ouvrage à vous procurer en librairie dès le 18 avril.